Mémo audio, une mémoire sonore.
À vous, maintenant, questions, interrogations.
Oui. Oui, bonsoir. Je voulais faire un point sur le... Enfin, ajouter un complément d'information concernant les grenades qu'on nous a présentées au niveau des décibels. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas linéaire, les décibels. Je crois que c'est, me souvenir de mon programme de physique, je crois que c'est 3 ou 6 décibels de plus, on double. Donc c'est logarithmique. Donc une grenade qui fait 150 décibels, une autre qui fait 160, c'est pas simplement 10 de plus, c'est 2 à 3 fois plus puissant. Et c'est ça qu'il faut quand même bien avoir en tête, quoi. Par contre, ce que je voulais ajouter aussi, par exemple... On en parle très peu, c'est de, par exemple, ce qui se passe à Bure, où des gens sont mis en garde à vue de façon totalement arbitraire, quoi. Voilà. Merci.
Donc, nos camarades, il y a un observateur parisien, il y en a un à Lille aussi, ils ont déjà fait une observation à Bure, et ils préparent des observations dans les mois qui viennent à Bure. C'est des observations au long cours, hein, les observations dans des lieux comme ça, comme ça a été le cas pour la 69, nous, autour de la crème arbre, hein, de l'occupation par les écureuils, où nous, l'observatoire, on y a été pratiquement une vingtaine de fois en 40 jours. Donc, pour voir ce qui se passe vraiment sur le terrain, au jour le jour, les pratiques des gendarmes. Donc, à Bure, ça va être le même problème. Donc, un problème de logistique pour les observateurs au même.
Parce que je pense que le virage qu'il y a eu, c'est Notre-Dame-des-Landes, où là, les forces de l'ordre se sont totalement embourbées et tout. Et je pense qu'ils ont dit plus jamais ça, quoi. Puisque au départ, il y avait eu un référendum local qui leur donnait le pouvoir pour l'aéroport. Et même là, ils n'ont pas pu contrer la ZAD, quoi.
Bonjour et merci. Je voulais revenir sur quelque chose qui avait été dit tout à fait au début de la présentation, c'était la nécessité, en tout cas le conseil, que les citoyens s'organisent en comité de surveillance de l'action de l'État et de l'action des services d'ordre. Et quelque part, même si ce n'est pas organisé, mais on voit bien que les citoyens ont bien compris qu'effectivement, quand il y avait des dérapages de la part des forces de l'ordre, il fallait qu'ils puissent documenter ce qui se passait. Et donc, il y a ce réflexe, systématiquement, de sortir les téléphones et de filmer. On a vu que pour Naël, c'est ce qui a permis, justement, de montrer les faits. Pour le jeune... Enfin, le jeune, peut-être pas si jeune que ça, mais le producteur du studio de musique, ça a été la même chose. Enfin, bon, et il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, notamment dans les manifestations... où systématiquement les manifestants prennent des photos. Récemment, le 10, c'était à Paul Sabatier, à l'université, quand ils ont chargé et agressé deux étudiants qui ne faisaient absolument rien, quoi.
La police nous observe. Observons la police.
Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. Moi, je vous ai découvert à l'Utopia l'autre soir et je... Je pense que je vais essayer de vous rejoindre d'ici quelques temps, si c'est possible. Par contre, oui, moi, ce que je voulais savoir, c'est avoir votre point de vue par rapport à l'évolution de la doctrine du maintien de l'ordre, hein, qui part vers du tout répressif. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on se retrouve avec des manifestants armés pour s'opposer se mettre sur le même plan d'égalité avec les forces de l'ordre? Moi, je le vois évoluer vers ça. Je vois. Parce que c'est ce qui me viendrait, moi, si j'étais. Alors, je ne suis pas courageux, je ne suis peut-être pas assez courageux, mais c'est ce qui me viendrait en voyant des forces de l'ordre agir comme ça, c'est de m'armer pour leur rentrer dedans aussi, quoi. Est-ce que vous le craignez, ça, ou pas? Ou est-ce que vous le voyez arriver, quoi?
On observe les pratiques policières. On n'observe pas les manifestants. On observe les manifestants que par rapport à l'interaction qu'il y a effectivement avec la police. C'est pas notre objet de travail. Pour autant, les organisations qui sont à l'origine de l'Observatoire des pratiques policières. L'observatoire, c'est un outil qui est un outil d'observation et d'analyse. Après, ça va pas tellement plus loin. Mais c'est vrai qu'on peut, par ailleurs, nous, par exemple, en tant que Ligue des droits de l'homme, aujourd'hui, on se pose la question, et on le dit clairement, que de la fuite en avant de la violence dans la mesure où le minimum de respect des droits n'est pas assuré et qu'à partir de là, les modalités de régulation sociale du conflit, si elles ne sont effectivement pas assurées dans les règles telles qu'elles, on peut très très bien effectivement assister à des dérives, à une logique qui va aller jusqu'à tirer. C'est vrai qu'on peut se poser la question, qui est de dire jusqu'où, à un moment donné, les gens vont-ils supporter de se laisser maltraiter sans réagir ? Sans réagir. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'on peut éventuellement se poser la question, y compris de savoir si ce n'est pas délibéré. Hein, l'histoire qu'on peut nous apprend, y compris dans notre pays, que ces choses-là sont des choses qui, effectivement, sont... Et on peut douter des stratégies mises en œuvre par les différents ministres de l'Intérieur sur ce qui se passe, effectivement, dans les rues, pendant les manifestations.
Oui, je voudrais compléter la réponse avec un peu d'histoire, quand même. On a connu une période de cette nature-là, quand les manifestants ont commencé à s'affronter de manière armée avec la police. C'est l'Italie des années 70. On a eu effectivement à l'époque cette situation-là où les militants ont commencé à sortir les armes dans les manifestations. Mais pas tant que ça, si je puis dire. C'est-à-dire que... Parce que aller s'armer, s'affronter à des policiers armés, on change complètement d'échelle et de nature de choses. Je ne pense pas qu'on en soit là aujourd'hui. Mais par contre, ce dont nous, on a un peu peur, certains d'entre nous, à l'OPP, ont peur, c'est que la police tire sur les manifestants à balles réelles. Là, c'est une inquiétude qui nous taraude. Et je voudrais en profiter. Gilles, tu veux dire un petit mot là-dessus ou pas ? Bon, ben, Gilles en dira un mot parce qu'il a écrit un petit texte et tout. Je voudrais qu'il en parle parce qu'on commence à s'inquiéter de ça.
Pardon, je voulais me permettre. Sur les manifestations, notamment des Gilets jaunes, on n'a pas vu de personnes arriver avec des armes. La France est quand même un pays de chasseurs. Il y a 1 million de chasseurs, il y a 1 million d'armes de chasse, mais il y a plusieurs millions, on ne sait pas trop d'ailleurs combien d'armes sont en circulation. Il y en a énormément en France. On ne voit pas de gens arriver dans des manifs en étant armés. Tout comme on n'a pas vu cet été, le 5 juillet, on n'a pas vu de manifestants avec des haches, alors que c'était justement ce qui était annoncé par le préfet. Pour l'instant, on n'a pas vu de gens défiler de cette manière-là. Mais peut-être qu'effectivement, ça arrivera peut-être.
Pour finir, et très rapidement, la police, elle est prête à, si jamais des personnes prennent les armes. Parce que là, je vous ai présenté que le matériel de maintien de l'ordre. Il reste encore les carabines qui sont disponibles pour tous les groupes de CRS, ainsi que les fusils automatiques. Et puis, tout à l'heure, je vous ai parlé du gros Centaure, là. Et je vous ai dit que ce matériel est utilisé pour le maintien de l'ordre, d'une part, oui, mais il est utilisé pour toute opération de gendarmerie. Et les gendarmes sont évidemment compétents pour intervenir sur le terrorisme. Ce sont des militaires. Et quand on a un ministre de l'Intérieur qui dit que ce ne sont plus des manifestants, ce sont des terroristes, et ça a été dit par plusieurs ministres de l'Intérieur, hein, parce que moi je regardais pour préparer Christophe Cassaner, quand il a nommé le préfet l'Allemand, il disait que ce qu'il y avait à Paris, ce n'était pas des manifestants. C'est autre chose. Et si c'est autre chose, c'est quoi ? Eh ben, ce sont des gens qui en veulent à la démocratie. Donc, on laisse. Et ensuite, on a eu d'autres prises de parole qui traitaient, notamment Darmanin, qui traitait directement de éco-terroriste. Mais dans éco-terroriste, il y a quand même terroriste. Et donc, il y a une législation sur le terrorisme. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêcherait les gendarmes de débâcher, enlever la petite bâche de leur camion, hein ? 1000 coups à la minute.
L'histoire des mouvements sociaux dans lesquels les gens révoltés ont pris des armes. Si on regarde l'Italie, si on regarde l'Allemagne, les armes, ça n'a jamais été dans les manifestations. L'analyse qu'on fait, c'est que si on pousse au désespoir des citoyens ou des citoyennes qui se sentiront incapables de manifester ou de dire leur désaccord, oui, on peut avoir une escalade où des gens radicalisés, désespérés, se disent c'est le fascisme, contre le fascisme, il n'y a qu'une seule solution, c'est de prendre les armes. C'est une dérive qui peut arriver.
Oui, hors OPP, j'ai participé à des AG du groupe Action, entre autres au Mirail et ailleurs, qui sont tenus essentiellement par des étudiants et des étudiantes. Et vraiment, il y a entre eux une volonté de non-violence extrêmement forte et un contrôle très fort de ça. Et même maintenant, je dirais, dans ces regroupements de jeunes, il n'y a plus d'insultes vis-à-vis de la police, hormis les quelques slogans que nous connaissons tous et qui sont utilisés depuis très longtemps maintenant. Mais il n'y a plus de violence verbale vis-à-vis de la police. C'est très étonnant.
Moi, je ne suis pas convaincu que c'est comme ça qu'il faut aborder ce sujet-là. C'est-à-dire qu'au moment où on nous traite d'éco-terroristes, on est en train de se poser le problème de savoir s'il n'y en a pas parmi nous qui vont s'armer. Moi, je pense honnêtement que ce n'est pas très raisonnable de discuter comme ça. Et donc, je pense qu'il faut aborder le problème de notre point de vue. Ce que fait la police, je vais y revenir, est, de mon point de vue, indissociable du fait que la police et les gendarmes, majoritairement, votent pour l'extrême droite. C'est ça, de mon point de vue, le nœud de problème. Pourquoi ? Dans un pays, la police, on dit, c'est le bras armé du gouvernement. C'est vrai, fondamentalement, rien n'a changé depuis qu'on a trouvé cette formule. Le problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est que la police défend une partie de la population. Je ne suis pas convaincu qu'elle ait déjà défendu toute la population, mais ça, c'est un autre débat. Elle ne défend qu'une infime minorité de la population, celle que le gouvernement a désignée, qu'il défend lui-même, c'est-à-dire les ultra-riches, les patrons, etc., etc. Et donc, tous ceux qui s'opposent à ça, ce sont les manifestants, ce sont tout ce qu'on voit dans la rue, les syndicalistes, les féministes, les personnes issues de l'immigration. Et ces personnes-là sont détestées par le gouvernement. La preuve, c'est qu'ils refusent, par exemple, que ces gens-là, et je pense que c'est le geste le plus fort, ils refusent que ces personnes-là qui manifestent puissent être représentés à l'intérieur d'un gouvernement. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, ça. Quand Macron dit le NFP, alors je ne veux pas dire par là que tous les manifestants seront NFP, ce n'est pas ça le problème. Mais je veux dire par là que ces gens-là sont désignés par le gouvernement comme n'ayant pas le droit d'accéder à un gouvernement. Donc cette affaire-là est très très forte. Et il y a dans les manifestations donc les gens que détestent la droite et l'extrême droite et que détestent la police. La police, elle est majoritairement en soutien à Marine Le Pen, accessoirement à Zemmour, mais essentiellement au Front National. Donc à partir de là, la police, elle est obligée, quand elle s'en donne à cœur joie dans les manifestations, de taper sur des gens qui sont détestés par elle, qui sont détestés par la droite, mais qu'en même temps, on désigne comme des gens ne pouvant pas avoir accès à un gouvernement. Je pense que c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et donc, la police dans ses façons d'agir n'a plus de retenue. Et une de ses missions, comme le gouvernement ne peut pas interdire toutes les manifestations, il a interdit quelques-unes, mais l'objectif de la police, c'est de faire en sorte que d'une manifestation à l'autre, il ait fait suffisamment peur et suffisamment mal pour qu'il y ait des pans entiers de la population qui ne reviennent plus aux manifestations. Parce que le grand problème, ils ont tiré les leçons de 95. Je pense qu'à 95, ce qui les a gênés, c'est l'ampleur des manifestations. Il n'y avait pas la violence policière qu'il y avait aujourd'hui. Et donc, cette ampleur de la manifestation, qui grossissait de jour en jour, a été une des raisons pour laquelle le gouvernement a retiré, au moins partiellement sur les retraites, pas sur la Sécu, leur point de vue, leur projet. Et donc les gouvernements de droite, mais aussi de gauche, pas toutes, mais une partie de la gauche, on dit plus jamais ça. Plus jamais nous ne laisserons des manifestations de telle ampleur. Et donc comment on fait ? Soit on les interdit, mais ça c'est pas possible. Donc on met une police qui fait très mal dans les manifestations. Et on l'avait vu au moment des Gilets jaunes, quand l'hélicoptère arrivait dans le ciel, les gens se tiraient en masse, parce qu'ils savaient que c'était le moment où on allait gazer, où on allait chasser par la BAC, etc., etc. Donc moi, je pense que c'est ça le problème essentiel aujourd'hui, c'est l'extrême droite, le poids qu'elle a dans l'intérieur de la police. Et je suis convaincu que les nouvelles brigades qui ont été, de CRS en particulier, elles ont la fonction que vous avez décrite, mais si demain, il y avait un gouvernement avec Marine Le Pen, etc., ça serait probablement pas aussi simple qu'en Italie. Et ces brigades-là seraient celles qui seraient chargées d'aller chercher sur leur lieu d'habitation toutes les personnes qu'on ne voudrait pas voir actives au moment des manifestations. Je termine sur une chose. Allez voir le site de Disclose qui parle des violences policières, mais à l'intérieur des commissariats. C'est-à-dire il y a 170 plaintes de policières et de gendarmes à l'encontre de leurs collègues. Il y a 490 plaintes qui ont été déposées par des gens qui vont dans le commissariat pour porter plainte, etc., et qui sont victimes d'agressions sexuelles. Je pense que, si je me souviens bien, il y aura un procès à Toulouse de ce qui s'est passé dans le commissariat à partir d'une plainte d'une dame qui était allée déposer plainte contre la violence de son époux.
Bonsoir. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, enfin, je me trompe peut-être, mais les pratiques policières qu'on a observées sur le mouvement syndical et le mouvement social depuis 2016, hein, le point de rupture de la loi travail, c'était aussi des pratiques policières qui étaient appliquées dans les quartiers populaires. Voilà. Dans les quartiers populaires, auprès des... Pardon. Des manifestations qu'il y avait quand il y avait des bavures dans les commissariats, que c'était aussi des pratiques qui étaient utilisées dans les mouvements lycéens, 98-99, des gros mouvements lycéens ont été extrêmement violents et la répression a été extrêmement violente, y compris son corollaire judiciaire avec les compas. C'était des choses qui étaient pratiquées dans les quartiers à l'encontre de la jeunesse et qui s'est étendue après, à mon sens, hein, depuis 2016, sur le mouvement syndical, quoi, et le mouvement social au sens large du terme.
Bonsoir. Vous n'avez pas parlé d'un phénomène nouveau là, qui se passe depuis 4-5 mois par rapport aux manifestations pour la Palestine. C'est-à-dire, c'est les milieux alternatifs toulousains qui sont contrôlés à partir du 9h le matin. Je vais vous citer les lieux, le Motor, la Chapelle, l'Escabel, le hangar de la Cipière. Les deux dernières manifestations de la Palestine, il y avait 4 véhicules de la police nationale et police municipale, de la BAC. À la Chapelle, on a été contrôlé toute la matinée, les papiers, etc. Bon, ils le faisaient sur le trottoir, ils ne rentraient pas dans l'établissement, parce qu'ils savent que c'est privé, donc c'est interdit. Ils sont restés devant le hangar de la Cépière pendant 3 heures, où le hangar de la Cépière n'avait pas ouvert en accueil d'urgence. Ils l'auraient fait s'il y avait une demande. Mais au Motor, pareil, il y a 2 véhicules qui sont restés pendant 3-4 heures le matin, devant le Motor, enfin sur le trottoir, sur le côté. Et bon, là, c'est pareil, il y avait aucun élément. Mais c'est-à-dire que maintenant, ils anticipent éventuellement, pour prendre les identités, etc., de futures manifestations, puisque la chapelle était présumée pour venir manger après pour les manifestants qui n'avaient pas, enfin bref, qui n'avaient pas prévu pour prendre leur repas. Et donc là aussi, c'est pour moi, c'est une entrave à la liberté, quoi. Et beaucoup de gens qui étaient à la chapelle ne sont pas allés à la manif parce qu'ils ont été un peu bousculés intellectuellement par cette pratique policière. Voilà.
Oui, un élément. Bien sûr, on est confronté. Je pense qu'il faut faire les petits camarades de le dire. On est confronté à la question qui est jusqu'où on va sur l'observation des pratiques policières dans leur extension, parce que il y a ça. Il y a ce qui se passe dans les quartiers populaires dont on sait qu'il se passe un certain nombre de choses. Sommes-nous capables aujourd'hui, avec le dispositif que nous avons, de faire ce genre de choses qu'on fait? Vous avez vu, alors bon, on n'est pas rentré dans le détail, mais l'énergie, le travail systématique que ça demande, hein, parce qu'encore une fois, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il y a un enjeu très fort, hein, qui est que quand on... C'est pas encore une fois par plaisir obsessionnel du détail qu'on produit une observation qui est une observation sourcée, recoupée, etc., etc. C'est parce que en face de nous, hein, on n'a pas, ils nous feront pas de cadeaux. Et jusqu'à présent, hein, on n'a jamais été attaqué en quoi que ce soit, ni d'ailleurs, ni en justice, ni de manière contradictoire dans l'espace public sur ce qu'on a produit. Hein, mais bien sûr, on a par exemple réfléchi un moment à aller, on l'a évoqué tout à l'heure, sur la 69. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que c'est notre objet de travail? Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir y aller? Voilà. Et pour le moment, on est relativement limité là-dessus. Peut-être que ça a été évoqué tout à l'heure, peut-être que l'Observatoire des pratiques policières, c'est un outil qui est un outil adapté à la manifestation de rue, pour le dire comme ça, ou à des endroits qui sont des endroits très ciblés. Mais la vraie question, c'est la question de la surveillance citoyenne. Ce qui a été évoqué, c'est que ça commence à prendre des photos, ça commence à filmer. Peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse, mais voilà, moi je laisse ça aussi dans le débat, à des réseaux d'observation et de surveillance de la police, au-delà d'un dispositif qui est un dispositif en lui-même, qui est profilé pour aller sur des manifs ou des choses comme ça. Voilà, c'est bien sûr qu'on entende des choses comme celle-là, et on est très et on n'est pas aujourd'hui en capacité effectivement de traiter ces choses-là. Mais là, je pense qu'il y a une question qui est une question importante. Je suis d'accord avec ce que dit Gilles, c'est-à-dire que la défense des libertés publiques sera à la mesure de notre capacité à les faire respecter. Voilà. C'est-à-dire que la capacité citoyenne que nous pouvons développer à réagir par rapport à ce qui se passe. Quand les flics sont surveillés, eh bien, ils font leur métier différemment. Au passage, d'ailleurs, ça donne de l'espace et de l'oxygène aux quelques flics qui font correctement leur métier aussi. Parce que ça aussi, ça n'a pas été évoqué. Hein, mais là, bien sûr que l'extrême droite est très, très présente dans la police nationale. Mais il y a des policiers qui sont quand même assez emmerdés de ce qui se passe. Voilà. C'est un problème de rapport de force, me semble-t-il, qu'il faudrait qu'on soit en capacité de développer. Voilà, la question est sur la table, elle est ouverte.
Mémo audio, une mémoire sonore.
Je rajoute juste un mot là-dessus. On a été pratiquement dès l'origine sollicité pour intervenir et pour réfléchir à l'observation de la police dans les quartiers populaires. Je réinsiste là-dessus, on en a débattu, on en a discuté. Entre observer une manifestation, par exemple, au moment des Gilets jaunes, tous les samedis, de manière régulière, d'accord, où on arrive à mobiliser les camarades pendant 3, 5, 8 heures, etc. L'OPP, en gros, pour rien vous cacher, c'est une vingtaine de personnes hein, sur le terrain. Jamais tous disponibles ensemble. Et franchir le pas d'aller observer 24 heures sur 24 dans un quartier ou dans des quartiers populaires, c'est complètement un changement d'échelle. Totalement un changement d'échelle. Si c'est pas aller passer 2 heures dans les quartiers populaires dans la semaine pour voir ce que font les flics, tout. Parce que, en tant qu'observateur, il faut que nous soyons acceptés par la population. Par exemple, pour l'Observateur des pratiques policières, ça ne s'est pas fait tout seul avec un certain nombre de manifestants. Au début, on a été regarder un peu de travers. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous prenez des photos? Etc. On l'a eu, bien sûr, au moment des Gilets jaunes, avec plein de néo-manifestants. On a revu ça de nouveau avec les anti-vax, quand on a observé les manifs anti-pass, anti-vax, etc. Et à chaque nouvelle génération de manifestants, les gens nous reposent la question qui vous êtes, etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, la question de l'observation des pratiques policières, ça se fait de manière sauvage dans les quartiers populaires. La preuve, tout est filmé. On n'a jamais des traces de ce qui s'est passé avec Naël si des gens n'avaient pas filmé ce qui est arrivé à Naël. Nous, le problème, c'est qu'on filme de manière organisée, on fait des rapports avec. Mais on est ouvert à toute collaboration si nécessaire. Mais on ne sait pas comment faire, pour être honnête.
C'est un vieux débat. Honnêtement, on n'a pas de plan de développement dans le futur. On navigue à vue. Et c'est toujours un débat entre nous, entre observateurs, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va observer. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout observer, qu'on ne doit pas tout observer. Sinon, on va se bousiller la santé. Par contre, à nous de choisir des lieux d'observation qui ont du sens et qui permettent que d'autres observations s'y greffent et qui expliquent un peu globalement comment les pouvoirs publics utilisent leur police actuellement contre les mouvements sociaux. Mais on n'a pas... Alors, on a discuté un peu avec les quartiers populaires à un moment. Est-ce qu'ils vont créer un observatoire? Ça ne s'est pas fait. Ça se fera peut-être un jour.
Alors, bonsoir. J'éprouve un certain malaise, surtout suite aux déclarations de Gilles. Est-ce que la police est sous contrôle du gouvernement? Est-ce qu'elle... Moi, j'ai toujours pensé que la police recevait des ordres et qu'elle traduisait exactement l'intensité. Oui, mais c'était le sentiment que j'avais. Hein. Mais ça, il faut lever ce doute, soit le lever, soit le confirmer. Est-ce que la police actuellement est sous contrôle des forces politiques? Sinon, il faudrait en urgence créer un observatoire des pratiques gouvernementales. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si la police a pris une certaine autonomie et qu'elle peut agir suivant son bon vouloir, c'est l'anarchie, ça ne va pas, ça. Effectivement, un jour ou l'autre, il y aura des armes du côté des manifestants. Je crains le pire. Si les forces de répression ne sont pas sous contrôle, nous allons vers des catastrophes. Alors, si vous pouvez m'éclairer à ce sujet, je remercie d'avance.
Oui, moi, je rappelle que on est dans un pays où il y a, dès le début de son mandat, le président de la République, à propos de l'affaire Benalla, il a dit qu'il vienne me chercher. Qu'il vienne me chercher, c'est-à-dire, voilà, un fou, là-haut. Et aujourd'hui, là où on est dans une crise politique, sociale, économique majeure, crise de régime véritable. À partir de là, les forces de police sont le dernier rempart du système. Il faut pas. Si jamais les gens pouvaient aller à l'Élysée demain virer Macron, ils iraient à 10 000 tout de suite, aller le virer, ça prendrait. Bon, il n'a plus que la police. Je rappelle qu'en 68, quand le régime a commencé à branler, les gaullistes, il faut le reconnaître, ont été capables de mobiliser quand même des centaines de milliers de personnes dans la défense du gouvernement. Oui, aujourd'hui, c'est impossible. Donc on va vers une situation extrêmement grave. Et tout ce qu'on a vu l'autre jour, l'attaque... Alors moi, je pense qu'il y a une chose. J'ai été frappé comme la dernière manifestation sur les retraites, comment les flics se permettaient d'enserrer la manifestation syndicale, qui était une manifestation de masse, en cherchant voir s'il n'y avait pas un petit black bloc qu'on pouvait choper par-ci, par-là. Tu m'as parlé de la CRS 80, je ne sais plus combien. Plus, j'ai vu, ils étaient prêts à n'importe quel moment à intervenir dans la manifestation. Alors, je crois qu'il faut que les organisations démocratiques les prennent conscience. Et ça va aller de pire en pire, puisqu'il n'y a plus d'autorité politique, il n'y a plus rien. Même la situation est à la limite de la légalité aujourd'hui constitutionnelle. Donc on va vers une situation extrêmement grave. Et je pense que les organisations qui appellent à des manifestations doivent assumer ça. Il ne s'agit pas simplement de faire des services d'ordre, parce que les policiers ne se comportent pas pareil quand ils ont en face d'eux une manifestation structurée, qui les surveille en même temps qu'eux surveillent la manifestation, et un troupeau humain où tout et rien peuvent se passer. Et j'aurais aimé, à partir de maintenant, que les camions sonos, par exemple, des organisations syndicales qui appellent à une manifestation, prennent plusieurs fois dans le parcours un temps de 5-10 minutes pour expliquer aux manifestants de bien rester ensemble, que l'attitude de la police est inquiétante, que ce qui se passe, ils ne sont pas d'accord avec la façon dont la police enserre la manifestation, etc. C'est-à-dire une mise en garde de tous les manifestants. Ce n'est pas qu'une question d'avoir trois lignes de service d'ordre ou des choses comme ça. C'est que tous les manifestants, maintenant, doivent savoir qu'ils vont... il faut le dire. Parce que sinon... Et je pense que ça peut ralentir les exactions policières, parce qu'ils savent, quand ils ont affaire à un troupeau, entre guillemets, et là, quand ça devient un peu structuré. Moi, j'ai vu, pour la preuve que les manifestations ne sont pas violentes, ils peuvent se mettre, certaines forces de police, comme les brigades d'intervention ou la BAC, peuvent elles-mêmes se mettre dans des situations rocambolesques. Moi, j'ai vu des situations au moment des Gilets jaunes, où alors, après avoir chargé, ils se retrouvaient à 20 ou à 15 encerclés par 2000 personnes. Et si les personnes avaient été violentes, c'est les policiers qui allaient avoir du mal. Donc, on assiste à cette technique de rentre-dedans des manifestations, qu'il faut absolument maintenant que le mouvement démocratique bloque et assume ce blocage.
Je voudrais revenir sur le fameux tweet de Retailleau, pour lequel donc plainte est en cours. Il me semble qu'il faut le rapprocher de ce qui a été longuement discuté sur la montée dans le niveau des armes. Monsieur Retailleau, il ne s'adresse peut-être pas à nous dans ce texte, il s'adresse aux policiers. Regardez, ils vont avoir des haches, ils vont avoir ceci, cela. Donc il provoque lui-même cette volonté de pouvoir dire on va vous armer un peu plus, parce qu'en face, regardez ce qu'ils ont. C'est de l'autoréalisateur. Et donc, monsieur Retailleau, à ce titre-là, il me semble qu'on peut aller beaucoup plus loin que simplement dire qu'il est dans l'excès, etc. Il y a de la stratégie quasi-militaire de faire monter les enchères. Et ça, c'est encore plus grave que d'être dans l'excès verbal. Il y a là derrière une volonté à dénoncer. Et peut-être que ce serait une façon de contre-attaquer sur cette sensation qu'on a de cette élévation.
Un petit mot pour répondre à Georges. Sur l'histoire effectivement de la police. Je crois que c'est dans la conclusion du deuxième ou du troisième rapport de l'OPP, nous écrivons à un endroit donné qu'aujourd'hui, on en est dans une situation où les lois sont écrites dans les commissariats. Ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler du syndicat Alliance, pour être clair, hein, parce que c'est le syndicat majoritaire dans la police. Souvenez-vous quand même, pour les plus anciens ou pour les plus jeunes qui ne sont pas au courant, que dans mon jeune temps, le syndicat majoritaire dans la police, c'était la Fédération autonome des syndicats de police, et qu'elle était classée à gauche. Oui, et même les CRS étaient majoritaires à la FAF. Donc les temps ont bien changé là-dessus, c'est clair. Le syndicat Alliance est très conscient de sa puissance. D'accord ? Ils tiennent les policiers pour des raisons de service, de tout ce qu'on veut, d'avancement, enfin on connaît, hein, etc. Et ils jouent de ça avec les gouvernements. Et donc, c'est pour ça que je dis que les lois, on l'a vu, quand on voit que chaque ministre de l'Intérieur en France, la première chose qu'il fait, c'est d'aller faire un baise-main dans les commissariats en arrivant, d'accord ? Qu'ils sont systématiquement surnommés les premiers flics de France et qu'ils s'en rengorgent, etc. D'accord ? Non, c'est plus que de la com. C'est que ces gens-là, aujourd'hui, savent que sans la police, ils sont mal. D'accord ? Donc, et les policiers le savent parfaitement bien, et tout. Donc, non, ils ne donnent pas les ordres. Enfin, oui, mais c'est un jeu, c'est donnant-donnant. Ça va ensemble. Hein, et tout. Et je voudrais répondre à juste un petit point sur l'irruption des policiers dans les manifestations, là. Quand vous lirez le bouquin, pour ceux qui liront la politique du désordre, la politique des manifestations en France, le préfet Lépine, début des 1900, célèbre préfet Lépine, avait dit à un moment donné, tous ces militaires dans les rues, ces lourds à manœuvrer pour les manifestations, on va créer des petits groupes de policiers mobiles qui vont aller choper les manifestants. Ce n'est pas le langage qu'on emploie à Jobard, mais en gros, ni Lépine, mais c'est ça, d'accord ? Ils ont appelé ça la louvoyante, d'accord ? Ils y sont allés dans les manifs. Et le préfet Lépine dit, au bout de quelques mois, on a arrêté tellement ils se faisaient rosser par les manifestants. D'accord ? Ils ont abandonné l'histoire de truc. Très bien, peut-être qu'un jour... bon, passons. Je sortirai de mon rôle d'observateur.
Juste sur cette histoire du rapport entre l'autorité politique et la police, je reviens sur ce qui a déjà été dit, je pense qu'il faut rappeler. On peut avoir en tête une représentation de la police telle qu'on a connue quand on était plus jeune, pour certains. Ce qui était que nous avions les phalanges macédoniennes dans l'espace public avec une salle de commandement à la préfecture et les orbes qui tombaient et les gens qui étaient sur le terrain étaient directement encadrés par des ordres qui sont des ordres précis. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini de manière délibérée, explicite. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique, c'est le schéma de maintien de l'ordre, ça a été évoqué, de donner de l'initiative, comme dans une entreprise, où on vous sert le même, y compris, boulgi-boulga libéral, de libérer les énergies et les initiatives. C'est-à-dire que l'homme de terrain a aujourd'hui une marge de manœuvre qu'il n'avait certainement pas une époque. Ça va de pair d'ailleurs avec la création des fameux policiers sautent dessus, ça s'appelle, et qu'on vient chercher la police pénale pour aller chercher des gens. Ça nous est arrivé d'avoir en face de nous des policiers qui faisaient bien sentir que c'était eux les patrons sur le terrain. Je ne parle pas des politiques, là, pour le coup, hein, mais des gens qui sont sur le terrain. Et on sait très bien que suivant l'officier de police judiciaire qui va gérer la manifestation, on ne va pas avoir les mêmes effets sur le terrain. Il y a une marge de manœuvre qui, y compris, est revendiquée. Autrement dit, voilà, et il faut le mettre en perspective avec aujourd'hui la réalité de ce que c'est que la police au niveau idéologique. Mais la réalité, effectivement, elle est celle-là. Ça ne se passera pas que sur la question qui est la question de l'interpellation de la décision politique, mais sur la capacité de la société à se mobiliser, y compris par rapport à des gens qui sont, je veux dire, on est dans des rapports d'horizontalité, d'une certaine manière. C'est là où ça devient dangereux, d'ailleurs.
Dans le dernier rapport sur les manifs sur la 69 de l'OPP, vous avez des liens, il y a une adresse aux policiers et aux gendarmes pour dire qui on est et ce qu'on fait. Parce que, notamment parce qu'on était à la campagne, il y a plein de gendarmes qui nous disent « Mais qui êtes-vous ? Vous êtes contre nous ? Vous êtes là ?» Il a fallu qu'on explique. L'adresse a été écrite avec des gendarmes. Et sans doute, ils ne sont pas très, très nombreux ou nombreuses pour l'instant. Mais on a intérêt toujours à laisser aussi l'ouverture et à ne pas globaliser complètement le camp des policiers et des gendarmes, parce que l'Alliance sait en profiter de ça.
Et juste un petit mot là pour finir sur cette question-là. Il faut se rappeler que la brigade anticriminalité, la BAC, elle s'affranchit d'absolument toutes les règles et même de l'OPJ. Je dis ça parce que je me rappelle que Jacques Toubon, lorsqu'il était défenseur des droits, avait écrit nommément que la brigade anticriminalité était totalement hors de contrôle. Donc elle n'obéit qu'à elle-même. Et c'est ça qui est effectivement extrêmement dangereux.
Moi, je suis très inquiète de la façon dont la population conçoit les manifestations et les manifestants. J'ai l'impression que toutes ces consignes qui sont de plus en plus strictes et qui viennent, je pense, vraiment directement des ministres de l'Intérieur, depuis Sarkozy, c'est crescendo, je dis rien. C'est de plus en plus violent. Quand vous le disiez, avant même que les manifestations commencent, les ministres ont déjà annoncé qu'elles vont être violentes et dangereuses, et qu'il y aura de la casse, et que les policiers vont être agressés. C'est vraiment... Et avec le rôle des médias aussi, on a vu la dépêche tout à l'heure. Et puis quand même, on n'a pas beaucoup parlé des gilets jaunes. Les gilets jaunes, il y a quand même eu beaucoup de casses, vous vous souvenez, hein, dans Toulouse, les banques, les mutuelles, beaucoup de magasins ont été, hein, étaient fermés. Et là, j'ai l'impression que la population, on a beaucoup parlé des black blocs, s'est inquiétée. Il y a aussi les infiltrations des militants d'extrême droite. Et ce qui m'a interpellée encore, c'est que cet après-midi, j'étais avec une amie, je lui disais que je venais ce soir à cette conférence, je lui ai parlé de la dernière manifestation du 2 octobre. Bon, c'est quelqu'un qui est assez informé, qui s'intéresse vraiment à l'actualité. Elle n'avait absolument pas compris, elle ne savait pas comment cette manifestation du 2 octobre avait tourné, enfin, de façon très, très violente, effrayante. Donc, comment on peut refaire ? Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des observations, des rapports ? Comment on fait des communiqués, hein, auprès de la police, on communique avec la préfecture, on communique avec aussi les médias, mais comment on peut faire pour que la population soit plus consciente de la violence policière qui est guidée en fait par les hommes politiques, enfin le ministre de l'Intérieur, c'est un homme politique.
Oui, est-ce que je peux poser une question ? À l'inverse de la, ok. Après, on... à l'inverse de la de l'observation de la violence qui va crescendo, est-ce que l'OPP en 8 ans a pu observer une fois au moins un doute sur la motivation de la police ? C'est-à-dire, est-ce que bon, crosse en l'air, peut-être pas, mais vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez pu observer un repli qu'on pourrait qualifier de démocratique de la police qui n'aurait pas obéi à un ordre d'affrontement. Et dans cette idée-là, est-ce qu'on connaît Est-ce qu'il y a un document ou des documents vidéo disponibles sur l'entraînement des policiers de pointe? C'est-à-dire que, moi, il y a quelques années, j'ai vu l'entraînement, sur Arte, je crois, un documentaire sur l'entraînement des CRS, où on voyait comment ces gens étaient formatés, j'allais dire dressés, pour devenir méchants, pour devenir haineux par rapport à leur cible. Est-ce qu'on a des documents récents là-dessus? Et est-ce que ça pourrait pas être aussi un angle d'attaque pour le grand public, pour pouvoir expliquer qu'on a affaire à des pauvres gens qui sont malmenés avant d'être malmenants? Merci.
Je vois pas.
Et j'ajoute qu'à 20h, en effet, enfin autour de 20h, il faudra rendre les clés de la salle. Merci.
Ça tombe bien, il est 57. Je ne connais pas de mouvement de mutinerie de la police contre des ordres. Par contre, j'ai recueilli pas mal de témoignages individuels de policiers ou gendarmes, gradés ou pas, qui ne sont pas contents, mais qui sont très isolés.
Oui, juste sur l'entraînement, il y a des films qui existent. Pardon. Il y a effectivement des films et des documentaires qui existent sur la manière, alors des fois qui sont absolument hallucinants, baroques, sur la façon dont on se teste les gaz lacrymogènes entre CRS avant de les envoyer aux manifestants. Voilà. Mais Arte, par exemple, a fait une série de reportages sur lesquels on le voit. Hein. Il y a des films là-dessus. Ça existe, effectivement. Ça existe.
Je crois qu'on doit se quitter. Malheureusement, on est un peu tous frustrés. Il faudrait 4 heures. Vous pouvez nous joindre. Il y a l'adresse mail. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez lire nos rapports. Vous pouvez nous rejoindre aussi. Il suffit de venir nous rencontrer directement, nous parler si vous souhaitez. Voilà. Faire œuvre avec nous dans cet observatoire. Merci à toutes et à tous. Merci.
Mémodio, une mémoire sonore.